Le journal de George Fox, 1661-1666, prison du château de Scarborough, page 3. Je fus gardé jusqu'aux assises, et le juge Turney et le juge Twisden furent affectés à cette tournée. Je fus amené devant le juge Twisden le 14 du mois appelé mars, vers la fin de l'année 1663. Quand je fus conduit à la barre, je dis « Que la paix soit parmi vous tous ». Le juge me regarda et dit « Comment ?» Vous venez au tribunal avec votre chapeau, à ces mots, le geôlier l'enleva, et je dis, le chapeau n'est pas l'honneur qui vient de Dieu. Alors le juge me dit, prendrez-vous le serment d'allégeance, George Fox? Je répondis, je n'ai jamais prêté aucun serment de toute ma vie, ni aucun pacte ou engagement. Eh bien, dit-il, jurez-vous ou non? Je répondis, je suis chrétien, et le Christ me commande de ne pas jurer, et l'apôtre Jacques aussi, et si je dois obéir à Dieu ou aux hommes, jugez-en. « Je vous le demande encore, dit-il, jurez-vous ou non ?» Je répondis encore, « Je ne suis ni turc, ni juif, ni païen, mais chrétien, et je dois faire paraître le christianisme. » Et je lui demandai s'il ne savait pas que les chrétiens des premiers temps, lors des dix persécutions, et aussi certains des martyrs du temps de la reine Marie, refusèrent de jurer, parce que le Christ et l'apôtre l'avaient interdit. Je lui dis aussi qu'ils avaient vu combien de gens avaient d'abord juré pour le roi, puis juré contre lui. Mais quant à moi, je n'avais jamais prêté serment de toute ma vie. Mon allégeance ne consistait pas à jurer, mais dans la vérité et la fidélité, car j'honore tous les hommes, et j'honore bien davantage le roi. Mais le Christ, qui est le grand prophète, le roi des rois, le sauveur et le juge du monde entier, a dit que je ne devais pas jurer. Maintenant dois-je obéir au Christ ou à vous? Car c'est par délicatesse de conscience, et par obéissance au commandement du Christ, que je ne jure pas, et nous avons la parole d'un roi en faveur des consciences délicates. Puis je demandai au juge s'il reconnaissait le roi. Ou oui, dit-il, je reconnais le roi. Pourquoi donc, dis-je, n'observez-vous pas sa déclaration de Breda, et ses promesses faites depuis qu'il est revenu en Angleterre, qu'aucun homme ne serait inquiété pour des questions de religion, pourvu qu'il vive paisiblement? Si vous reconnaissez le roi, dis-je, pourquoi me mettez-vous en cause et me demandez-vous de prêter un serment, ce qui est une question de religion, puisque ni vous ni personne d'autre ne peut m'accuser de vivre d'une manière non paisible? Là-dessus il fut ému et, me regardant avec colère, dit, et toi jureras-tu? Je lui dis, je ne suis pas sot, et toi, je suis un chrétien, et pour lui, un vieil homme et un juge, de rester là et de donner des sobriquets aux prisonniers, cela ne convenait ni à ses cheveux gris ni à sa charge. Eh bien, dit-il, je suis chrétien aussi. Alors faites des œuvres chrétiennes, dis-je. Et toi, dit-il, crois-tu m'effrayer avec tes paroles? Puis, se reprenant et regardant de côté, il dit, écoutez, je suis encore en train d'employer le mot, et toi, ainsi il se reprit. Je dis, je vous ai parlé avec amour, car ce langage ne vous convenait pas à vous, juge. Vous devriez instruire un prisonnier dans la loi, s'il est ignorant et ne comprend pas. Et moi aussi je te parle avec amour, dit-il. Mais dis-je, l'amour ne donne pas de sobriquet. Alors il se redressa et dit, je n'aurai pas peur de toi, George Fox. Tu parles si fort que ta voix couvre la mienne et celle du tribunal. Il me faut appeler 3 ou 4 crieurs pour couvrir ta voix. Tu as de bons poumons. Je suis prisonnier ici, dis-je, pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour lui que je souffre et pour lui que je me tiens ici aujourd'hui. Et si ma voix était 5 fois plus forte, je l'élèverais et la ferais retentir pour l'amour du Christ, pour la cause duquel je me tiens aujourd'hui devant votre siège de jugement, par obéissance à celui qui commande de ne pas jurer, devant le siège de jugement duquel vous serez tous amenés, et devrez rendre compte. « Eh bien, dit le juge, George Fox, dis si tu prendras le serment, oui ou non ? » Je répondis, « Je dis comme je l'ai dit auparavant, dois-je obéir à Dieu ou aux hommes, jugez-en. Si je pouvais prêter quelque serment que ce soit, je prendrais celui-ci. » Car je ne refuse pas seulement certains serments ou en certaines occasions, mais tous les serments, selon la doctrine du Christ, qui a commandé aux siens de ne pas jurer du tout. Maintenant, si vous, ou l'un de vous, ou l'un de vos ministres ou prêtres ici présents, pouvez prouver que le Christ ou son apôtre, après avoir interdit tout serment, a jamais commandé aux chrétiens de jurer, alors je jurerai. Je vis plusieurs prêtres là, mais aucun n'offrit de parler. Alors le juge dit, je suis serviteur du roi, et le roi ne m'a pas envoyé pour discuter avec toi, mais pour exécuter les lois, présentez-lui donc le serment d'allégeance. Si vous aimez le roi, dis-je, pourquoi rompez-vous sa parole et n'observez-vous pas ses déclarations et ses discours, dans lesquels il a promis la liberté aux consciences délicates? Je suis un homme à la conscience délicate, et par obéissance au commandement du Christ je ne puis jurer. Alors tu ne jureras pas, dit le juge, emmenez-le, geôlier. Je dis, c'est pour l'amour du Christ que je ne puis jurer, et c'est par obéissance à son commandement que je souffre, et ainsi que le Seigneur vous pardonne à tous. Ainsi le geôlier m'emmena, mais je sentis que la puissante puissance du Seigneur était sur eux tous. Le 16e jour du même mois, je fus de nouveau amené devant le juge Twisden, qui était quelque peu offensé par mon chapeau, mais comme c'était le dernier matin des assises, avant qu'il ne quitte la ville, et qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, il en fit moins de cas. Il me demanda si je voulais nier l'accusation, garder le silence ou me soumettre. Mais il parlait si vite qu'il était difficile de savoir ce qu'il disait. Toutefois, je lui dis que je désirais qu'on me laissât la liberté de nier la véracité de l'acte d'accusation et qu'on en fît les preuves au tribunal. Alors il dit « Emmenez-le, je ne veux rien avoir à faire avec lui, emmenez-le. » Je dis « Eh bien, vivez dans la crainte de Dieu et faites justice. » « Pourquoi, dit-il, ne t'ai-je pas rendu justice ?» Je répondis, « Ce que vous avez fait a été contre le commandement du Christ. » Ainsi je fus reconduit à la prison et gardé prisonnier jusqu'aux assises suivantes. Quelque temps avant ces assises, Margaret Fell avait été envoyée prisonnière à la prison de Lancaster par les juges de paix Fleming, Kirby et Preston, et aux assises on lui proposa aussi le serment, et elle fut de nouveau écrouée pour rester jusqu'aux assises suivantes. Extrait de Valiant for the Truth. Tandis que George Fox souffrait ainsi pour raison de conscience, sa bonne hôtesse, la veuve du juge Fell, fut à son tour soumise à l'épreuve et à l'emprisonnement. Un jour, alors que les amis étaient assis tranquillement dans leur réunion à Swarthmore Hall, le colonel Kirby se présenta et releva les noms de tous les hommes présents. Quelques jours plus tard, un officier vint amener Margaret Fell devant une assemblée spéciale de la magistrature, réunie à Ulverston. On l'interrogea au sujet des réunions tenues chez elle, et on lui dit que, si elle ne promettait pas de les interrompre, on lui proposerait les serments d'allégeance et de suprématie. Elle répondit que, tant que le Seigneur lui laisserait une maison, elle s'efforcerait en esprit et en vérité d'y adorer Dieu. On lui présenta alors le serment, et comme elle ne pouvait en conscience prêter aucun serment, elle aussi fut envoyée en prison jusqu'aux assises suivantes. Là, on suivit le même procédé avec le même résultat. Elle ne pouvait ni prêter le serment, ni accepter sa liberté à la condition d'abandonner les réunions chez elle. Elle fut donc renvoyée pour 3 mois de plus. À l'expiration de cette période, le juge Turney prononça contre elle une sentence de promunir, par laquelle elle fut mise hors la loi, condamnée à l'emprisonnement à vie, et ses biens confisqués au profit de la couronne. Mais ni la foi ni le courage ne l'abandonnèrent, et elle répondit ainsi à cette cruelle sentence, « Bien que je sois hors de la protection du roi, je ne suis pas hors de la protection du Dieu Tout-Puissant. » Le Seigneur la soutint en effet lorsqu'elle se sépara de ses enfants et retourna dans sa sombre prison, ne sachant pas si elle les reverrait jamais, ou sa chère demeure. Elle prouva, en vérité, que des murs de pierre ne font pas une prison, ni des barreaux de fer une cage, car la lumière du Seigneur brillait dans son cœur, et sa paix remplissait son âme. Enfermée dans le château de Lancaster, Margaret Fell, bien que privée d'une coopération active avec ses amis, put mettre sa plume au service de son maître. Elle envoya des lettres d'avis et de conseils aux différentes réunions d'amis, et des traités sur divers sujets sortirent des murs de son cachot, volant comme des semences de vérité, destinées, dans bien des cas, à germer et à porter du fruit pour la gloire de Dieu. Après 3 années d'emprisonnement, elle écrivit un vigoureux appel au roi, lui rappelant la déclaration de Breda et la promesse qu'il lui avait faite que, si les amis étaient paisibles, ils seraient protégés. Elle se référa aussi à son entretien avec le roi, et au conseil qu'elle lui avait donné de se garder de prendre la vie de ceux qui les opprimeraient, eux dont le seul crime était d'obéir et d'adorer le Seigneur Jésus. Elle décrit ensuite sa prison comme un lieu où la tempête, le vent et la pluie entraient facilement, et qui parfois était rempli de fumée. Cette remontrance n'eut aucun effet, et elle demeura dans sa sombre prison près de 2 années de plus, jusqu'à ce que les efforts de ses amis en sa faveur réussissent. En 1668, elle fut libérée de sa détention et autorisée à retourner auprès de sa maison et de ses enfants, après un emprisonnement de près de 5 ans. Le juge de paix Fleming était l'un des plus féroces et des plus violents magistrats dans la persécution des amis et l'envoi en prison de ses honnêtes voisins pour raison de religion. Et comme beaucoup d'amis étaient alors dans la prison de Lancaster incarcérés par lui, et que certains étaient morts en prison, nous qui étions alors prisonniers eûmes à cœur de lui écrire comme suit, au juge de paix Fleming. La miséricorde, la compassion, l'amour et la bonté parents et honorent les hommes et les magistrats. Oh, n'entendez-vous pas les cris des veuves et les cris des orphelins, rendus tels par la persécution? Ne furent-ils pas pourchassés comme des brebis, de constable en constable, comme s'ils avaient été les plus grands transgresseurs ou criminels du pays? Cela affligea le cœur de bien des gens sérieux, de voir comment leurs innocents voisins et compatriotes, dont la conduite était paisible, et la vie et la conversation parmi les hommes honnêtes, étaient traités et malmenés. Un autre encore est mort, que vous avez envoyé en prison, laissant 5 enfants à la fois sans père et sans mère. Comment pouvez-vous faire autrement que de prendre soin de ces enfants orphelins, et aussi de la femme et de la famille de l'autre, n'est-ce pas là votre devoir, considérez Job ch. 29. Comment il fut un père pour les pauvres, il délivrait le pauvre qui criait, et l'orphelin qui n'avait personne pour l'aider. Il brisait les mâchoires du méchant et arrachait la proie de ses dents. Mais oh! Mesurez votre vie à la sienne, et prenez garde au jour du jugement éternel de Dieu, qui viendra, et à la sentence et au décret du Christ, lorsque chaque homme devra rendre compte et recevoir selon ses œuvres. Alors on dira, oh, où sont les mois passés, encore, juge de paix Fleming, considérez lorsque John Stubb fut amené devant vous. Il avait une femme et quatre petits-enfants, et n'avait guère pour vivre que ce qu'ils gagnaient honnêtement par leur diligence. À peine eût-il paru que vous vous écriâtes, faites prêter le serment à cet homme. Et lorsqu'il confessa qu'il n'était qu'un pauvre homme, vous n'en eûtes cure, mais rejetâtes la pitié, ne voulant pas entendre ce qu'il avait à dire. Et maintenant il est détenu en prison, parce qu'il n'a pas pu jurer et violer le commandement du Christ et de l'apôtre Jacques. On peut espérer que vous prendrez soin de sa famille, afin que ses enfants ne meurent pas de faim, et veillerez à ce qu'il ne manque pas de pain. Est-ce là l'allégeance au roi, que de faire ce que le Christ et son apôtre disent être mauvais, et conduire à la condamnation? Si le Christ et l'apôtre Jacques, qui commandèrent de ne pas jurer, avaient vécu en vos jours, ne les auriez-vous pas jetés en prison? Considérez aussi votre pauvre voisin, William Wilson, que toute la paroisse et les voisins connaissaient comme un homme industrieux, soucieux d'entretenir sa femme et ses enfants. Pourtant il n'avait guère que ce qu'il gagnait de ses mains, avec diligence et déplacement, pour subvenir à ses besoins. Comment sa femme pourra-t-elle nourrir ses enfants, quand vous avez jeté son mari en prison, le rendant incapable de travailler pour eux? Il est donc à prévoir que vous prendrez soin de sa femme et de ses enfants, et veillerez à ce qu'il ne manque de rien. Car comment vivrait-il, n'ayant d'autre moyen d'être soutenu que le peu qu'il gagnait? Assurément, le bruit de cela se répand jusque sur les marchés, et la mort de vos deux voisins, et les cris des veuves et des orphelins se font entendre. Tous ces orphelins et ces veuves ayant été rendus tels pour la justice, car John Stubb et William Wilson n'auraient-ils pas encore leur liberté s'ils avaient voulu jurer, quand bien même ils auraient été de ceux qui patronnent les charlatans et les comédiens, ou de ceux qui vont chercher Krell? Oh, considérez, car la pensée du Seigneur n'est pas ainsi. Car il est tendre, et le roi a déclaré sa pensée, que nulle cruauté ne devait être exercée contre ces sujets paisibles. D'ailleurs, plusieurs pauvres gens honnêtes furent condamnés à des amendes alors qu'ils auraient eu besoin qu'on leur donnât quelque chose, et il eût été plus honorable de leur donner quelque chose que de les amender et de les envoyer en prison, certains vivant de la charité d'autrui. Quel honneur ou quelle grâce peut-il y avoir pour vous ajouter en prison vos pauvres voisins, qui sont paisibles? Vous savez que ces gens ne peuvent faire ce que vous exigez d'eux, fût-ce pour sauver leur vie ou tout ce qu'ils possèdent. Parce que, par délicatesse, ils ne peuvent prêter aucun serment, vous en faites pour eux un piège. Que pensez-vous que les gens disent de cela? Nous connaissons, disent-ils, le principe des Quakers qui s'en tiennent au oui et au non, mais nous voyons d'autres jurer et se parjurer, car beaucoup d'entre vous ont juré d'abord d'un côté puis de l'autre. Ainsi nous laissons cela à l'Esprit de Dieu dans votre conscience, juge de paix Fleming, vous qui étiez si empressé à prendre George Fox, et si offensé contre ceux qui ne l'avaient pas arrêté, et qui maintenant vous êtes acharné sur vos pauvres voisins. Mais oh, où est votre pitié pour leurs pauvres enfants orphelins et leurs nourrissons sans mère? Prenez garde à la dureté de cœur d'Hérode, et au rejet de toute pitié. Ésaü fit ainsi, non Jacob. Considérez encore Thomas Walters de Bolton jeté en prison, et le serment imposé par votre fait, et pour avoir refusé de jurer en quoi que ce soit, par obéissance au commandement du Christ, il a continué en prison, lui qui a cinq petits-enfants et une femme proche d'accoucher. Assurément, vous devriez aussi prendre soin de veiller à ce que sa femme et ses petits-enfants ne manquent de rien, eux rendus orphelins et elle comme veuve par votre fait. N'entendez-vous pas à vos oreilles les cris des orphelins, les cris des veuves, et le sang des innocents parler, ceux qui par votre fait ont été persécutés jusqu'à la prison et qui maintenant sont morts? Oh. Lourde sentence au jour du jugement. Comment répondrez-vous lorsque vous et vos œuvres viendrez à être jugés, lorsque vous serez amenés devant le tribunal du Dieu Tout-Puissant, vous qui, dans votre prospérité, avez fait des veuves et des orphelins pour la justice et par délicatesse de conscience envers Dieu? Le Seigneur le sait et le voit. Ô homme, considérez durant votre vie, comment vous vous êtes souillé du sang des innocents. Lorsque vous aviez du pouvoir et auriez pu faire du bien parmi vos voisins paisibles, vous ne l'avez pas voulu, mais vous avez usé de votre pouvoir non pour un bon dessein, mais contrairement à la pensée du Seigneur et à celle du roi. La faveur, la miséricorde et la clémence du roi envers les gens sobres et les consciences délicates ont été manifestées par des déclarations et des proclamations que vous avez abusées et méprisées en persécutant ces sujets paisibles. À Londres et dans d'autres palais, les réunions des Quakers sont paisibles, et si vous regardez seulement jusqu'au Yorkshire, où il y a eu le complot, l'innocence des amis s'est justifiée dans le cœur de sobres magistrats. Que vous vous en preniez ici à vos voisins et gens paisibles, ce n'est pas un honneur pour vous d'être rigoureux et violent envers ceux qui sont délicats, pieux et justes. Combien d'ivrognes, de jureurs, de bagarreurs et de gens livrés au vice avez-vous fait amener devant vous à vos tribunaux? C'est comme s'il vous était plus honorable de vous occuper de cela, comme si la loi n'avait pas été faite pour les justes, mais pour les pécheurs et les transgresseurs. Considérez donc ces choses et humiliez-vous, car le Seigneur peut vous faire ce que vous avez fait aux autres, et vous ne savez pas combien vite il peut y avoir un cri dans votre propre famille, comme il y a un cri parmi vos voisins, des orphelins et des veuves rendus tels par vous. Mais les Quakers peuvent et disent que le Seigneur vous pardonne et ne vous impute pas ces choses si telle est sa volonté. Outre ceci, qui partait au nom de plusieurs, je lui envoyais aussi une ligne ou deux, signée de moi seul, et adressée à Daniel Fleming. Amis, vous avez emprisonné les serviteurs du Seigneur, qui n'ont enfreint aucune loi, prenez donc garde à ce que vous faites, de peur que la main du Seigneur ne se tourne contre vous. Car dans la lumière du Seigneur Dieu, vous êtes vus de lui. George Fox, peu de temps après cela, la femme de Fleming mourut et lui laissa 13 ou 14 enfants sans mère. Lorsque j'étais prisonnier à Lancaster, il y avait aussi là un prisonnier nommé le Major Wigan, prédicateur baptiste. Il se vantait beaucoup à l'avance de ce qu'il dirait aux assises si on lui imposait le serment et qu'il refuserait de jurer. Mais lorsque les assises arrivèrent et que le serment lui fut présenté, il demanda du temps pour y réfléchir. Cela lui ayant été accordé jusqu'aux assises suivantes, il obtint la permission d'aller à Londres avant que les assises ne reviennent, et il resta à Londres jusqu'à ce que la peste éclate, et là lui et sa femme moururent. C'était un homme très méchant, et les jugements de Dieu vinrent sur lui, car il avait publié un livre très impie contre les amis, plein de mensonges et de blasphèmes, dont l'essentiel était ceci. Pendant qu'il était au château de Lancaster, il défia les amis de débattre, alors j'obtins du geôlier la permission de monter vers eux. Entrant en discussion avec lui, il affirma que certains hommes n'avaient jamais eu l'Esprit de Dieu, et que la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde, est naturelle. Pour preuve de sa première affirmation, il cita Balaam, soutenant que Balaam n'avait pas l'Esprit de Dieu. « Je déclarai et prouvai que Balaam avait l'Esprit de Dieu, et que les hommes méchants ont l'Esprit de Dieu, autrement comment pourrait-il l'éteindre, le contrister, l'attrister et résister au Saint-Esprit, comme les Juifs au Coured. » À sa seconde affirmation, je répondis que la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde, était la vie dans le monde, et qu'elle était divine et éternelle, et non naturelle. Et il pourrait aussi bien dire que la parole était naturelle, que de dire que la vie dans la parole était naturelle. Les méchants étaient éclairés par cette lumière, autrement comment pourraient-ils la haïr? Il est dit expressément qu'ils la haïssaient, et la raison donnée est parce que leurs œuvres étaient mauvaises, et ils ne voulaient pas venir à elle parce qu'elle les reprenait, et elle devait être en eux si elle les reprenait. De plus, cette lumière ne pouvait pas être les Écritures du Nouveau Testament, car on en avait témoigné avant qu'aucune partie du Nouveau Testament fût écrite. Elle devait donc être la lumière divine, qui est la lumière en Christ, la parole, avant les Écritures. Et la grâce de Dieu, qui apporte le salut, était apparue à tous les hommes et avait instruit les saints. Mais ceux qui s'en détournaient pour se livrer à la débauche et marchaient avec outrance contre l'Esprit de grâce étaient les méchants. De plus, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, le Consolateur, qui conduit les disciples du Christ dans toute la vérité, devait lui-même convaincre le monde de péché, de justice, de jugement et d'incrédulité. Ainsi, le monde méchant l'avait pour les reprendre. Et les vrais disciples et apprenants du Christ, qui croyaient en la lumière comme le Christ le commande, l'avaient pour les conduire. Mais le monde, qui ne croyait pas en la lumière, bien qu'il fût éclairé par elle, mais haïssait la lumière en laquelle il aurait dû croire, et aimait les ténèbres plus qu'elle, ce monde avait une justice et un jugement dont le Saint-Esprit les reprenait, aussi bien que de leur incrédulité. Ayant prouvé que les bons et les mauvais étaient éclairés, que la grâce de Dieu était apparue à tous, et que tous avaient l'Esprit de Dieu, sans quoi il ne pourrait ni le contrister ni l'attrister, je dis au Major Wigan que le moindre petit enfant pourrait le discerner. Et aussitôt Richard Cabham se leva et prouva par l'Écriture qu'il était un antéchrist et un trompeur. Puis le geôlier me ramena dans ma prison. Ensuite Wigan écrivit un livre sur cette dispute et y mit une abondance de mensonges abominables, mais son livre reçut bientôt une réponse imprimée, et lui-même fut retranché peu après, comme il a été dit. Ce Wigan était pauvre et, pendant qu'il était prisonnier à Lancaster, il envoya dans les campagnes et sollicita qu'on recueillît de l'argent pour soulager les pauvres gens de Dieu en prison, et beaucoup donnèrent librement, pensant que c'était pour nous, alors qu'en réalité c'était pour lui-même. Mais lorsque nous l'apprîmes, nous l'en rendîmes responsable et écrivîmes dans les campagnes afin que les amis fassent connaître la vérité de l'affaire au peuple, que ce n'était pas notre manière de faire des collectes pour nous, et que ces collectes n'étaient que pour Wigan et un autre, un prédicateur ivrogne de sa société, qui s'enivrait tellement qu'une fois il perdit son pantalon. Après cela, il me vint à cœur d'écrire aux juges et à d'autres magistrats au sujet de leur usage de paroles mauvaises et de sobriquets envers ceux qu'on amenait devant eux, ce qui était de la manière suivante, à tous les juges ou autres officiers quels qu'ils soient, dans le monde entier, qui professent être chrétiens. Amis, dans cette lettre et par la lecture des Écritures, vous pouvez voir à la fois vos propres paroles et votre conduite, et les paroles et la pratique des Juifs et des païens, et celle du Roi des Rois, le grand législateur et juge du monde entier. Premièrement, concernant les paroles et la manière d'agir des Juifs, lorsque ceux qui étaient dignes de mort étaient amenés devant leur chef. Quand Achan eut pris le manteau babylonien, les 200 cycles d'argent et le lingot d'or de 50 cycles de poids, et que Josué, qui était alors juge d'Israël, l'eut découvert par le sort, il ne l'appela pas « et toi ni vaurien, coquin, scélérat », comme certains magistrats dits chrétiens sont trop enclins à le faire. Mais Josué dit à Achan « mon fils ». Notez son langage pur, l'expression convenable et ses paroles pleines de grâce. « Mon fils, dit-il, donne, je te prie, gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et fais-lui confession, dis-moi maintenant ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Alors Achan confessa qu'il avait péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et qu'il avait fait ceci et cela. Puis Josué, le juge, dit, « Pourquoi as-tu troublé Israël? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et ils le lapidèrent, lui et les siens, et brûlèrent ses biens par le feu. Mais on ne lui adressa, autant que nous lisons, aucune parole malséante, bien qu'il fût digne de mort. Josué 7:20-26. De même, lorsque l'homme qui ramassait du bois le jour du sabbat fut pris et amené devant Moïse, juge d'Israël, et mis en garde jusqu'à ce que la pensée du Seigneur fût connue à son sujet, nous ne lisons qu'aucun langage injurieux ne lui ait été adressé, mais le Seigneur dit à Moïse et Moïse au peuple, « Cet homme sera certainement mis à mort. » NB 15:35. De même encore, lors de la rébellion de Corée, Dassen et Abiram, quand Moïse les appela à comparaître, il ne les interpella pas par un « et toi » il ne les affubla de sobriquets, mais il dit à Corée et aux autres « écoutez, je vous prie, vous fils de Lévi » NB 16:8. Et lorsqu'il prononça la sentence contre eux, il dit « si ces hommes meurent de la mort commune de tous les hommes ». Et il ne dit pas « si ces vauriens ou ces coquins », comme beaucoup de ceux qui se disent chrétiens le font aujourd'hui. Quand Élu parla à Job, qui était juge ainsi qu'à ses amis, et dit « qu'il ne me soit pas permis, je vous prie, d'avoir égard à la personne, ni de donner à l'homme des titres flatteurs, car je ne sais pas donner des titres flatteurs, en faisant ainsi, mon Créateur m'emporterait bientôt. » Job 32:21. Job ne lui dit pas, « Et toi, tais-toi », et il ne lui donna aucune expression malséante. Puis, quant aux paroles de David, Salomon et d'autres rois et officiers, voyez dans les livres des rois et des chroniques le langage convenable qu'ils adressèrent à ceux qui étaient amenés devant eux. Bien que Shimei maudit David le roi, ni David alors ou ensuite, ni Salomon, lorsqu'il le fit mettre à mort, ne lui adressèrent de langage injurieux, ni ne l'appelèrent seulement « et toi » de Sam 16:13 et 1 roi 2. Lisez les prophéties d'Ésaïe, Michée, Jérémie, Ézéchiel et les autres prophètes, qui prophétisèrent à divers peuples et contre des chefs, des rois et des magistrats, pourtant, où peut-on trouver qu'on leur ait adressé un mauvais langage, tel que « et toi » ou semblable, par quelque chef que ce soit, juif ou païen. Non, quoique Jérémie ait été jeté en prison et dans le cachot, aucune parole telle que « et toi » ou « coquin » ne lui fut adressée. Jr 37:13-21, concernant les paroles et la conduite des païens. Quand Abraham compara devant Abimélec, qui était roi, celui-ci n'usa d'aucune expression malséante envers Abraham. Gênes 22. Quand Isaac compara devant Abimélec, il ne lui adressa aucune parole moqueuse. Gênes 26. Quand Joseph fut jeté en prison en Égypte, nous ne lisons pas qu'on lui ait adressé un langage injurieux. Gênes 39. Et Pharaon, lorsque Moïse et Aaron comparurent devant lui, ne leur adressa pas de mauvais langage, comme « et toi, coquin ou semblable ». Lorsque Nabuchodonosor condamna les trois enfants à la fournaise ardente, on ne leur adressa pas de paroles telles que « et toi, coquin, vaurien », mais on les appela par les noms sous lesquels on les connaissait, Dan 3. Et lorsque Daniel fut amené devant le roi Darius et condamné à être jeté dans la fosse aux lions, on ne lui donna pas de mauvais nom, comme beaucoup le font aujourd'hui, eux qui appellent ces chefs des païens, mais se disent chrétiens. Si vous regardez dans le Nouveau Testament, dans la parabole du festin des noces, le roi qui vint voir ses convives ne dit pas à celui qu'il trouva sans habit de noces, « Et toi, comment es-tu entré ici ?» Mais, ami, comment es-tu entré ici, bien qu'il fût de ceux qu'on devait lier pieds et mains et jeter dans les ténèbres du dehors. Matthieu 22:11-13. Non, même lorsque Judas eut trahi son maître Jésus-Christ, le Seigneur de la vie, et l'eut vendu au prêtre, le Christ ne l'appela pas « et toi » quand il vint l'arrêter, mais « ami » Matthieu 26:50. Étienne, lors de son examen, de sa condamnation et de sa mort, ne reçut aucune parole injurieuse telle que « Et toi ou coquin, Actes 6 et Actes 7. Quand les apôtres Pierre et Jean furent amenés devant le grand prêtre et les chefs des Juifs, et qu'on leur commanda de ne pas prêcher au nom de Jésus, Actes 4, on ne les appela pas « et toi ou coquin » et on ne leur donna aucun de ces mauvais noms. Quand Paul et Silas furent jetés en prison par les magistrats, Actes 16, ils les appelèrent « homme, non scélérat » et « toi, ni coquin ». Et lorsque les magistrats avaient fait quelque chose de contraire à la loi, ils eurent peur. Vous pouvez donc voir combien beaucoup, qui se disent chefs chrétiens, sont loin de cet exemple. Ils n'ont pas peur de jeter des innocents en prison, et de plus de leur donner de mauvais noms, étant au-dessous des Juifs et des païens. Lorsqu'il y eut l'émeute à Éphèse au sujet du temple de Diane, Démétrius, qui jouissait d'une grande considération parmi les artisans, n'appela pas Paul, et toi mais Paul, Actes 19. Et lorsque Paul fut amené prisonnier devant le grand prêtre Anania et le conseil des Juifs, et leur dit qu'il avait vécu en toute bonne conscience devant Dieu jusqu'à ce jour, bien que ceux qui professaient les Écritures mais vivaient hors de leur vie, ne pouvaient supporter d'entendre parler de vivre en une bonne conscience, comme les professeurs des Écritures aujourd'hui, qui ne vivent pas dans la vie, ne peuvent supporter d'entendre parler de vivre en une bonne conscience de nos jours, Anania fit frapper Paul à la bouche, pourtant il ne l'appela pas. Acte 23. Les Juifs apostats en effet qui, bien qu'ils professassent l'Écriture, étaient hors de la vie de celle-ci et avaient rejeté le Christ, en accusant Paul devant les magistrats romains, ne le traitèrent pas une seule fois de pestilent individu, acte 24, comme les professeurs accusateurs qui vivent hors de la vie, nous appellent parfois aujourd'hui. Mais ni Félix, ni Festu, ni le roi Agrippa dans tous leurs examens n'adressèrent à Paul des paroles telles que « et toi, Vaurien, coquin ou semblable », mais l'écoutèrent avec patience. Ainsi les chrétiens peuvent voir, à travers toutes les Écritures, que lorsque des personnes étaient amenées devant des chefs, des rois ou des magistrats, qu'ils fussent juifs ou païens, on ne les affublait pas de mauvais noms, tels que « et toi, Vaurien, coquin » et autres semblables. Ils n'avaient pas un tel langage grossier dans leurs tribunaux. Et ils ne leur disaient pas « et toi, ôte ton chapeau ». Or vous qui professez le christianisme et dites que l'Écriture est votre règle, vous pouvez voir que des paroles plus corrompues sortent de votre bouche que de celles des juifs ou des païens, si vous éprouvez votre pratique par les Écritures, et l'apôtre ne vous dit-il pas qu'aucune parole corrompue ne doit sortir de votre bouche, et que vos paroles doivent être pleines de grâce. Maintenant je demande, d'où vous, qui vous dites chrétien, tenez-vous tous ces mauvais mots et ces noms, puisque ni Dieu ni le Christ, ni les prophètes, ni les juges, ni les rois, ni les chefs n'ont jamais donné de tels noms, autant qu'il apparaît par l'Écriture, ni chez les païens, ni chez les juifs, ni chez les chrétiens. George Fox, avant les assises suivantes, il y eut à Lancaster une session trimestrielle tenue par les juges de paix. Bien que nous ne devions pas être amenés devant ce tribunal, je demandai aux amis de rédiger un compte rendu de leurs souffrances et de le présenter aux juges de paix en séance publique. Car les amis avaient beaucoup souffert par des amendes et des saisies. Les baillis et les officiers avaient fait de grands ravages saisissant leurs biens, mais aucun recours n'était possible. Et parce que certains magistrats mal intentionnés nous parlaient parfois du récent complot dans le Nord, nous publiâmes l'écrit suivant pour leur fermer la bouche, et pour disculper la vérité et les amis, il était ainsi, un témoignage de nous, peuple de Dieu, que le monde appelle Quakers, à tous les magistrats et officiers de quelque sorte qu'ils soient, du plus haut au plus bas. Nous sommes paisibles, et nous cherchons la paix, le bien et le bien-être de tous, comme le révèlent nos vies et notre conduite paisible, et nous désirons le bien éternel de tous et la paix éternelle de leurs âmes. Nous sommes devenus héritiers de la bénédiction avant que la malédiction fût, et de la puissance de Dieu avant que le diable fût, et avant la chute de l'homme. Nous sommes héritiers de l'évangile de paix, qui est la puissance de Dieu, et nous sommes héritiers du Christ, l'ayant hérité lui et son royaume éternel, et possédant la puissance d'une vie impérissable. Vous connaissant notre part et notre héritage, le but de cet écrit est d'ôter de vos esprits et de l'esprit de tous les gens toute jalousie à notre sujet. Nous avons toujours, et nous nions maintenant absolument, tous complots et conspirations, comploteurs et conspirateurs contre le roi, ainsi que toute aide ou assistance à de tels, rien de tel n'est de nous, ni ne doit être de la communion de l'Évangile, du royaume du Christ ou de ses serviteurs. Car le Christ a dit que son royaume n'était pas de ce monde, s'il l'était, ses serviteurs combattraient. C'est pourquoi il dit à Pierre, « Remets ton épée, car dit-il, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Voici la foi et la patience des saints. » Porter et souffrir toutes choses, sachant comme nous savons que la vengeance appartient au Seigneur. Et il la rendra à ceux qui font du mal à son peuple et qui font tort à l'innocent, c'est pourquoi nous ne pouvons nous venger, mais devons souffrir pour l'amour de son nom. Nous savons que le Seigneur jugera le monde en justice selon ses œuvres, et que chacun devra lui rendre compte des œuvres faites dans le corps. Alors le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Le Christ a dit qu'il n'était pas venu pour détruire la vie des hommes, et lorsque ses disciples auraient voulu que le feu descende du ciel pour consumer ceux qui ne le recevaient pas, il leur dit qu'ils ne savaient pas de quel esprit ils étaient, eux qui voulaient voir détruire la vie des hommes. C'est pourquoi il les reprit et leur dit qu'il n'était pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver. Or, nous sommes de la pensée du Christ, qui est le grand prophète, que tous doivent écouter en toutes choses, lui qui commande aux siens, « Si l'on te frappe sur une joue, tends l'autre, et ne rendez à personne le mal pour le mal. » Cette doctrine, nous l'avons apprise, et non seulement nous le confessons en parole, mais nous suivons sa doctrine, et c'est pourquoi nous avons souffert et souffrons toutes sortes d'opprobres, de scandales, de calomnies, de dépouillements de biens, de soufflets, de fouets, de coups, et d'emprisonnements depuis tant d'années, et nous pouvons dire « Que le Seigneur pardonne à ceux qui nous ont ainsi traités, et ne leur impute pas ces choses. » Nous savons que l'épée extérieure des Juifs, par laquelle ils abattaient extérieurement les païens, était une figure de l'épée intérieure de l'esprit, qui abat le païen intérieur, la nature furieuse chez les gens. Et le sang des taureaux, des agneaux, des béliers et d'autres offrandes, et le sacerdoce qui les offrait, avec d'autres choses de la loi, étaient des figures du Christ, l'unique offrande, et de son sang. Il est le prêtre éternel et l'Alliance, notre vie et notre chemin vers Dieu, le grand prophète et berger, la tête de son Église et le grand évêque de nos âmes, dont nous attestons la venue, et il veille sur son troupeau et le garde. Car en Adam, dans la chute, nous connaissons les esprits de lutte, de crêle et d'impatience, dans l'inimitié les uns contre les autres et non dans la paix. Mais en Christ Jésus, le second Adam, qui n'est jamais tombé, il y a la paix, le repos et la vie. La doctrine du Christ, qui n'a jamais péché, est de s'aimer les uns les autres, et ceux qui sont dans cette doctrine ne font de mal à personne, nous étant en Christ qui est notre vie. C'est pourquoi il vous est bon de distinguer entre le précieux et le vil, entre ceux qui craignent Dieu et le servent, et ceux qui ne le font pas, et d'établir une différence entre l'innocent et le coupable, entre celui qui est saint et pur et l'impie et le profane, car ceux qui ne le font pas attirent sur eux-mêmes trouble, fardeau et douleur. Nous écrivons ceci par amour pour vos âmes, afin que vous considériez ces choses, car ceux qui haïssent leurs ennemis et se haïssent les uns les autres, nous ne pouvons pas dire qu'ils soient de Dieu, ni dans la doctrine du Christ, mais qu'ils s'y opposent. Et ceux qui luttent contre la chair et le sang, avec des armes charnelles, sont allés dans la chair hors de l'esprit. Ils ne sont pas dans notre communion dans l'esprit, où se trouve le lien de la paix, ils ne sont ni des nôtres, ni n'avons-nous unité avec eux dans leur état charnel et avec leurs armes charnelles. Car notre unité et notre communion se tiennent dans l'Évangile, c'est la puissance de Dieu, avant que fût le diable, le menteur, le meurtrier, l'homicide et l'envieux. Or, la pensée et la doctrine du Christ étant de sauver la vie des hommes, nous qui sommes de la pensée du Christ sommes hors de ces choses et au-dessus d'elles. Notre désir est que, dans la crainte du Seigneur, vous viviez tous, et que vous receviez la sagesse de Dieu, par laquelle toutes choses furent créées, afin que par elle tout soit ordonné à sa gloire. Ceci vient de ceux qui aiment toutes vos âmes et cherchent votre bien éternel. Prisonnier au château de Lancaster, je fus profondément saisi du sentiment qu'un jour de grande épreuve et d'exercice était venu et venait sur tous ceux qui avaient été élevés dans la profession de religion. Et je fus poussé à publier l'écrit suivant comme avertissement pour de tels. Voici le jour où la foi et l'amour de chacun envers Dieu et le Christ seront éprouvés, ceux qui sont rachetés de la terre, et ceux qui sont dans la terre seront manifestés, et l'on verra qui est le maître qu'ils servent, et s'ils courront vers les montagnes pour s'y cacher. Maintenant il apparaîtra qui est le terrain pierreux, qui est le terrain épineux, et qui est le terrain du chemin, en qui les oiseaux du ciel enlèvent la semence, les épines et les soucis du monde étouffent, et la chaleur de la persécution brûle, et dessèche votre jeune pousse verte, car le jour éprouve toutes choses. C'est pourquoi, que ceux qui abandonnent la vérité afin de sauver la vie terrestre ne disent pas que seuls les prêtres ne servent pas le Seigneur Jésus-Christ mais leur propre ventre, et ont les choses terrestres à l'esprit, car eux aussi font de même, et certes et embrassent le moi, et non le Seigneur. Maintenant il sera manifesté quel est le Dieu de chacun, et le Christ, et le Sauveur, et leur amour sera manifesté, qu'il soit du monde ou l'amour de Dieu. Car si c'est l'amour du monde, c'est inimitié, et l'inimitié manifestera ce qu'elle est, et le jour éprouvera tout esprit et ses fruits. C'est pourquoi, vous tous, mes chers amis, vivez dans la semence éternelle de Dieu, qui est au-dessus de toute la maison d'Adam et de ses œuvres dans la chute, demeurant dans la semence le Christ, qui ne tomba jamais, en lui vous avez tous vertu, vie et paix, et par lui vous triompherez de tout ce qui est dans la chute. George Fox, j'écrivis aussi une autre courte épître aux amis, pour les avertir de se tenir à l'écart de l'esprit qui agissait en John Perrault et sa compagnie contre la vérité. Chers amis, demeurez dans l'amour de Dieu et dans sa justice, qui vous préservera au-dessus de tous les esprits impurs et changeants, qui ne demeurent pas dans la vérité mais demeurent dans les crêles. Évitez de tels esprits et gardez vos demeures dans la vérité. Demeurez dans la vérité et dans la parole de Dieu, par laquelle vous êtes réconciliés avec lui. Tenez vos réunions au nom de Jésus-Christ, qui ne tomba jamais, alors vous dominerez toutes les assemblées des fils et des filles d'Adam. Vous demeurez dans la vie au-dessus de tous, en laquelle est votre unité, votre paix et votre communion avec Dieu, et les uns avec les autres, dans la vie, où vous pouvez jouir de la présence de Dieu parmi vous. Souvenez-vous donc de moi auprès de tous les amis dans la semence éternelle de Dieu. Tous ceux dont la communion est dans les choses extérieures, leur communion se corrompra, pourrira et se flétrira. C'est pourquoi, vivez dans l'Évangile, la puissance de Dieu, laquelle puissance de Dieu, l'Évangile, était avant que le diable fût. Et cette communion dans l'Évangile, la puissance de Dieu, est un mystère pour toutes les communions du monde. Ainsi, regardez au-dessus de toutes les souffrances extérieures, et regardez au Seigneur et à l'Agneau, qui est le premier et le dernier, l'Amen, en qui je vous dis adieu. George Fox au sixième mois, les assises se tinrent de nouveau à Lancaster, et les mêmes juges, Twisden et Turney, revinrent sur ce circuit, mais le juge Turney siégeait alors au banc du roi, de sorte que je fus amené devant lui. Avant d'être appelé à la barre, on me mit parmi des meurtriers et des criminels pendant environ 2 heures. Le peuple, les juges de paix et le juge aussi me dévisageaient. Après avoir jugé plusieurs autres, ils m'appelèrent à la barre et constituèrent un jury. Alors le juge demanda au juge de paix, « Vous m'avez présenté le serment aux sessions ?» Ils dirent « Oui ». Alors il dit, « Donnez-leur le livre, afin qu'ils jurent qu'ils m'ont présenté le serment conformément à l'acte d'accusation. » Quelques-uns des juges de paix refusèrent de prêter serment, mais le juge dit qu'il voulait que ce fût fait pour ôter toute occasion d'exception, contestation de l'accusation. Quand le jury eut prêté serment, et que les juges de paix eurent juré, qu'il m'avait offert le serment conformément à l'acte d'accusation, le juge me demanda, « N'avez-vous pas refusé le serment aux dernières assises ?» Je dis, « Je n'ai jamais prêté serment de ma vie, et le Christ, le Sauveur et Juge du monde, a dit, « Ne jurez point du tout. » Et le juge sembla ne pas tenir compte de ma réponse, mais il me demanda, « Oui ou non, n'avez-vous pas refusé de prêter serment aux dernières assises ?» Je dis, « Les paroles que je leur ai dites furent, que s'ils pouvaient prouver, juge, juge de paix, prêtre ou docteur, qu'après que le Christ et l'apôtre Jacques ont interdit de jurer, eux ensuite ont commandé aux chrétiens de jurer, je jurerai. » Le juge dit, « Je ne suis pas ici pour disputer maintenant si jurer est licite, mais pour savoir si vous avez refusé de prêter serment ou non. » Je lui dis, « Les choses mentionnées dans le serment, comme comploter contre le roi, et reconnaître l'autorité du pape ou de quelque autre puissance étrangère, je les nie absolument. » « Eh bien, dit-il, vous dites bien là, mais avez-vous décliné de prêter serment, qu'en dites-vous? Que voulez-vous que je dise, dis-je, car je vous ai déjà dit ce que j'ai dit. » Alors il me demanda si je voulais que ces hommes jurent que j'avais pris le serment. Je lui demandai s'il lui voulait que ces hommes jurent que j'avais refusé le serment, ce à quoi la cour éclata de rire. J'étais affligé de voir tant de légèreté dans une cour où l'on traite de matières si graves, et je leur demandai donc, « Cette cour est-elle un théâtre, où est la gravité et la sobriété, dis-je, car ce comportement ne vous cite pas ?» Alors le greffier lut l'acte d'accusation, et je dis au juge, « J'ai quelque chose à dire à son sujet, car je me suis informé des erreurs qui s'y trouvent. » Il me dit, qu'il m'entendrait ensuite sur les raisons que je pourrais alléguer pourquoi il ne devrait pas prononcer jugement. Alors je parlai au jury et leur dis, qu'il ne pouvait me déclarer coupable selon cet acte d'accusation, car l'acte d'accusation était erroné et contenait de nombreuses fautes grossières. Le juge dit que je ne devais pas parler au jury, mais que lui leur parlerait, et il leur dit que j'avais refusé de prêter serment aux dernières assises, et dit-il, « Je puis offrir le serment à n'importe quel homme maintenant et le frapper de prémonition s'il ne le prend pas, et dit-il, « Vous devez me déclarer coupable parce que j'ai refusé de prêter serment. » Alors, dis-je, « Que faites-vous de la forme de la procédure judiciaire ? Vous pouvez tout aussi bien jeter votre procédure judiciaire. » Et je dis au jury, « Cela pèse sur vos consciences, comme vous aurez à en répondre devant le Seigneur Dieu à son tribunal. » Alors le juge parla de nouveau au jury, et je le chargeai de me rendre justice. Le jury me déclara coupable. Alors je leur dis que les juges de paix et eux aussi s'étaient parjurés, et qu'ils avaient donc peu de raison de rire comme ils l'avaient fait un peu auparavant. Oh, l'envie, la rage et la malice qui parurent contre moi, et cette légèreté, mais le Seigneur les confondit, et ils furent merveilleusement arrêtés. Ainsi ils me mirent de côté et firent appeler Margaret Fell, qui rendit parmi eux un grand service en bien, et ensuite la cour se leva vers la deuxième heure. L'après-midi, on nous ramena pour que la sentence fût prononcée contre nous. Margaret Fell demanda que la sentence fût différée au lendemain matin. Je ne demandais rien d'autre que la loi et la justice de sa part, car les voleurs ont de la pitié. Je priais seulement le juge d'envoyer quelqu'un voir ma prison, qui était si mauvaise qu'on n'y mettrait aucune créature qu'ils eussent. Et je lui dis que le colonel Kirby, qui siégeait alors au banc, avait dit, Je serai enfermé, et aucune chair vivante ne viendra à moi. » Le juge secoua la tête et dit que, lorsque la sentence serait prononcée, il me laisserait à la merci du geôlier. La plupart des notables du pays s'étaient rassemblés, s'attendant à entendre la sentence, et l'opinion parmi le peuple était que je serais déporté. Mais ils furent tous déçus cette fois-là, car la sentence étant différée au lendemain matin, on me renvoya de nouveau en prison. Comme je me plaignais de l'état de ma prison, quelques-uns des juges de paix avec le colonel Cub y montèrent pour la voir, mais lorsqu'ils arrivèrent, ils osèrent à peine entrer tant le plancher était mauvais et dangereux, et le lieu si ouvert au vent et à la pluie. Certains de ceux qui montèrent dirent, on dirait sûrement une dépendance. Quand le colonel Cub y la vit et entendit ce que les autres en disaient, il excusa la chose du mieux qu'il put, disant, « Je serai bientôt transféré dans un endroit plus commode. » Le lendemain, vers la 11e heure, on nous appela de nouveau pour entendre la sentence. Margaret Fell fut appelée la première à la barre, et elle avait un conseil pour plaider en sa faveur, il releva de nombreuses erreurs dans son acte d'accusation. Après que le juge les eut reconnues, elle fut remise en liberté. Alors le juge demanda, « Que peuvent-ils dire du mien ?»« Je ne voulais pas qu'aucun homme plaidât pour moi, mais parler pour moi-même. » Et en vérité, quoique Margaret eût un conseil qui plaida pour elle, elle parla elle-même autant qu'elle le voulut. Mais avant de venir à la barre, j'eus dans mon esprit l'élan de prier, que Dieu confonde leur méchanceté et leur envie, établisse sa vérité au-dessus de tout, et exalte sa semence. La voix tonnante dit, « Je t'ai glorifié, et je te glorifierai encore, et j'étais si rempli de gloire, et ma tête et mes oreilles étaient si pleines de gloire, que lorsque les trompettes et les juges remontèrent, ils me parurent tous comme des hommes morts au-dessous de moi. » Et le Seigneur entendit et répondit, et les confondit dans leur démarche contre moi. Et quoique leur envie fût surtout contre moi, les erreurs les plus grossières furent néanmoins trouvées dans mon acte d'accusation. Puisque je n'avais personne d'autre pour plaider pour moi, le juge me demanda ce que j'avais à dire, pourquoi il ne devrait pas prononcer sentence contre moi. Je lui dis, je ne suis pas juriste, mais s'il avait seulement la patience d'écouter, j'avais beaucoup à dire. Là-dessus il rit, et d'autres rirent aussi, et le juge dit, « Allez, qu'avez-vous à dire ? Il ne peut rien dire. Si, dis-je, j'ai beaucoup à dire, mais ayez la patience de m'entendre. » Alors je lui demandai si le serment devait être offert au sujet du roi, ou au sujet de prince étranger, il dit, « Au sujet de ce royaume. » Alors je dis, « Regardez dans l'acte d'accusation, et vous verrez que vous avez omis le mot « sujet ». Ainsi, ne m'ayant pas nommé dans l'acte d'accusation comme sujet, vous ne pouvez me frapper de prémonition pour n'avoir pas prêté serment. » Alors ils examinèrent la loi et l'acte d'accusation, et virent que c'était comme je l'avais dit, et le juge reconnut que c'était une erreur. Je lui dis, « J'ai encore quelque chose pour arrêter votre jugement, et je le priai de regarder au jour auquel, selon l'acte d'accusation, le serment m'aurait été présenté aux sessions là-bas. » Ils regardèrent et dirent, « C'était le 11e jour de janvier. Quel jour de la semaine la session s'est-elle tenue, dis-je ? Un mardi, dirent-ils. Alors, dis-je, regardez vos almanachs, et voyez s'il y eut des sessions tenues à Lancaster le 11e jour de janvier, ainsi nommé. » Ils regardèrent, et trouvèrent que le 11e jour était le jour appelé lundi, et que la session était le jour appelé mardi, qui était le 12e jour de ce mois. Maintenant voyez, dis-je, vous m'avez inculpé d'avoir refusé le serment aux cartes et sessions tenues à Lancaster le 11e jour de janvier dernier, et les juges de paix ont juré qu'ils m'avaient offert le serment en séance publique ici ce jour-là, et le jury, sur la base de leur serment, m'a déclaré coupable, et pourtant vous voyez qu'aucune session ne s'est tenue à Lancaster ce jour-là. » Alors le juge, pour couvrir l'affaire, demanda, « Les sessions n'ont-elles pas commencé le 11e jour ?» Mais certains dans la cour répondirent, « Non, la session n'a duré qu'un jour, et c'était le 12e. » Alors le juge dit, « C'est une grande méprise et une erreur. » Quelques-uns des juges de paix entrèrent dans une grande rage à cela, frappèrent du pied et dirent, qui a fait cela, quelqu'un a fait cela exprès, et il y eut une grande colère parmi eux. Alors, dis-je, les juges de paix ici présents, qui ont juré sur cet acte d'accusation, ne sont-ils pas des parjures aux yeux du pays? Mais ce n'est pas tout, dis-je, j'ai encore à offrir d'autres raisons pour lesquelles la sentence ne devrait pas être rendue contre moi. Alors je demandai, en quelle année du règne du roi la dernière assise ici a-t-elle eu lieu, celle du mois appelé mars dernier? Le juge dit, c'était dans la 16e année du roi. Mais dis-je, l'acte d'accusation dit que c'était dans la 15e année. Ils regardèrent et trouvèrent que c'était ainsi. Cela aussi fut reconnu comme une autre erreur. Alors ils furent de nouveau tous agités et ne savaient que dire, car le juge avait fait jurer les officiers de la cour que le serment m'avait été offert à l'assise mentionnée dans l'acte d'accusation. Maintenant dis-je, la cour ici n'est-elle pas parjurée aussi, elle qui a juré que le serment m'a été offert à l'assise tenue ici dans la 15e année du roi, alors que c'était dans sa 16e année, et ainsi ils ont juré une année fausse, Le juge leur dit de regarder si l'acte d'accusation de Margaret Fell était le même avec des erreurs ou non. Ils regardèrent et trouvèrent que ce n'était pas le cas. Je dis au juge, j'ai encore à offrir davantage pour arrêter la sentence, et je lui demandai, est-ce que tout le serment doit être inséré dans l'acte d'accusation ou non ? Oui, dit-il, il doit y être entièrement mis. Alors, dis-je, comparez l'acte d'accusation avec le serment, et vous y verrez ces mots, ou par quelque autorité dérivée, ou prétendue être dérivée de lui ou de son siège, omis de l'acte d'accusation, qui est une partie principale du serment, et ailleurs les mots héritier et successeur sont omis. Le juge reconnut aussi que c'était de grandes erreurs. « Mais dis-je, je n'ai pas encore fini, j'ai encore quelque chose à alléguer. »« Non, dit le juge, j'en ai assez, vous n'avez pas besoin d'en dire davantage. »« Si, dis-je, vous en avez assez, je ne demande rien d'autre que la loi et la justice de vos mains, car je ne cherche pas la miséricorde. »« Vous aurez justice, dit-il, et vous aurez la loi. » Alors je demandai, « Suis-je libre, et affranchi de tout ce qui a jamais été fait contre moi dans cette affaire ?»« Oui, dit le juge, vous êtes affranchi de tout ce qui a été fait contre vous. » Mais alors, se levant avec colère, il dit, « Je puis imposer le serment à n'importe quel homme ici, et je vous imposerai le serment de nouveau. » Je lui dis, qu'il avait eu hier assez d'exemples de serments et de faux serments, tant chez les juges de paix que chez le jury, car j'avais vu de mes propres yeux que juges de paix et jury s'étaient parjurés. Le juge me demanda si je prendrais le serment. Je répondis, « Rendez-moi justice pour mon faux emprisonnement pendant tout ce temps, car pourquoi ai-je été emprisonné si longtemps ? » Je lui dis que je devais être remis en liberté. « Vous êtes libre, dit-il, mais je vous imposerai encore le serment. » Alors je me retournai et dis, « Que tous prennent garde, c'est un piège, car je dois être libéré du geôlier et de cette cour. » Mais le juge cria, « Donnez-lui le livre, et le shérif et les juges de paix crièrent, « Donnez-lui le livre. » Alors la puissance des ténèbres se leva en comme une montagne, et un greffier leva un livre vers moi. Je restai immobile et dis, « Si c'est une Bible, donnez-la dans ma main. » « Oui, oui, dirent le juge et les juges de paix, « Donnez-la dans sa main. » Alors je la pris, l'ouvris et dis, « Je vois que c'est une Bible, j'en suis heureux. » Il avait fait appeler le jury, et il se tenait là, car après qu'ils eurent rendu leur premier verdict, il ne les renvoya pas bien qu'ils le demandassent, mais il leur dit qu'il ne pouvait pas encore les renvoyer, qu'il aurait affaire à eux, donc ils devaient rester et être prêts lorsqu'on les appellerait. Lorsqu'il dit cela, je sentis son intention que si j'étais libéré, il attaquerait de nouveau. Je le regardai donc en face, et le témoignage de Dieu se leva en lui, et le fit rougir quand il me regarda à nouveau, car il vit que je l'avais démasqué. Néanmoins, s'endurcissant, il fit lire le serment devant moi, le jury se tenant là. Quand il eut été lu, il me demanda si je prendrais le serment ou non. Alors je dis, « Vous m'avez donné ici un livre à baiser et sur lequel prêtez serment, et ce livre que vous m'avez donné à baiser dit, « Baisez le Fils, et le Fils dit dans ce livre, « Ne jurez point du tout, et ainsi dit l'apôtre Jacques. » Je dis comme le livre dit, et pourtant vous m'emprisonnez. Comment se fait-il que vous n'emprisonniez pas le livre pour dire cela ? Comment se fait-il que le livre soit libre parmi vous, lui qui m'ordonne ne pas jurer, et que pourtant vous m'emprisonniez pour faire comme le livre me l'ordonne ? Or, tandis que je leur disais cela, et que je tenais la Bible ouverte dans ma main pour leur montrer l'endroit où le Christ avait interdit de jurer, ils arrachèrent le livre de ma main, et le juge dit, « Non, mais nous emprisonnerons George Fox. » Pourtant cela se répandit dans tout le pays comme un sobriquet, qu'il m'avait donné un livre pour jurer qui me commandait de ne point jurer du tout, et que la Bible était en liberté, et que moi j'étais en prison pour avoir fait comme la Bible disait. Comme le juge continuait à me presser de jurer, je lui dis, « Je n'ai jamais prêté serment, ni fait d'alliance, ni d'engagement de ma vie, mais mon oui ou mon non m'obligeait plus qu'un serment n'en obligeait beaucoup d'autres, car n'avait-il pas fait l'expérience de combien peu les hommes respectaient un serment ?» Et comment ils juraient d'une façon puis d'une autre. Et comment les juges de paix et la cour s'étaient parjurés maintenant ? Je lui dis que j'étais un homme à la conscience délicate, et que s'ils avaient quelque sens d'une conscience délicate, ils considéreraient que c'était par obéissance au commandement du Christ que je ne pouvais jurer. Mais dis-je, si l'un de vous peut me convaincre qu'après que le Christ et l'apôtre Jacques ont commandé aux gens de ne pas jurer, ils ont changé ce commandement et ont commandé aux chrétiens de jurer, vous verrez que je jurerai. Comme il y avait beaucoup de prêtres présents, je dis, « Si vous ne le pouvez pas, que vos prêtres se lèvent et le fassent. » Mais aucun des prêtres ne répondit, « Oh, dit le juge, le monde entier ne peut vous convaincre. » « Non, dis-je, pourquoi serais-je convaincu par le monde ? Le monde entier est plongé dans la méchanceté. Mais faites venir vos hommes spirituels, comme vous les appelez, pour me convaincre. » Alors le shérif et le juge dirent tous deux que les anges juraient dans l'Apocalypse. Je répondis, « Quand Dieu fit entrer dans le monde son fils premier-né, il dit, que tous les anges de Dieu l'adorent, et lui a dit, ne jurez point du tout. » « Non, dit le juge, je ne discuterai pas. » Alors je parlai au jury, leur disant que c'était pour l'amour du Christ que je ne pouvais jurer, et que je les avertissais donc de ne pas agir contre ce qui vient de Dieu dans leur conscience, car ils doivent tous comparaître devant son tribunal. Et je leur dis, quant au complot et à la persécution pour religion et papisme, je les nie dans mon cœur, car je suis chrétien, et je ferai paraître le christianisme parmi vous aujourd'hui. C'est pour la doctrine du Christ que je tiens ferme. J'eus encore des paroles avec le juge et le jury avant que le geôlier ne m'emmenât. Retour suivant.